utile et que ça va nous aider dans notre foi personnelle et aussi dans notre service. Alors, je vais chercher une définition, une définition du dictionnaire, et une définition que j'ai trouvée chez Wikipédia. Je vous dis quelques lignes de cette définition. La compassion est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier. D'accord ? Vous avez déjà les deux choses. C'est-à-dire quelque chose qu'on ressent, un sentiment, une émotion, et le désir de porter secours. S'il n'y a pas le désir de porter secours, ce n'est pas vraiment de la compassion. Donc la compassion, ce n'est pas la pitié. La pitié, c'est juste un sentiment. La compassion, c'est une attitude. Il y a du sentiment, il y a de l'émotion, mais c'est aussi une attitude. La compassion aussi est un sentiment, dans l'écriture en tout cas chez Dieu, qui veut aider la personne à se lever, à se relever. La pitié peut avoir chez nous une petite note de supériorité ou de condescendance, vous voyez. Dans la compassion, on refuse ce regard sur l'autre. C'est un regard qui va aider à se lever. S'il est par terre, de le soutenir, mais dans une relation de face à face. Et aussi dans une relation où nous entrons dans celui de la personne. Nous souffrons avec celui qui souffre, en partie en tout cas. Voilà, c'est une définition, quelques mots du dictionnaire. Et je voudrais commencer par le plus important, à savoir la compassion de Dieu. Je voudrais passer un peu de temps là-dessus, parce que nous qui connaissons bien ces choses-là, qui connaissons l'écriture, qui l'avons entendu depuis longtemps, pour certains d'entre nous, on a tendance à transformer en concept des choses qui manifestent la vie. Et ça devient juste des idées, ça ne touche plus. Et quand on parle de la compassion de Dieu, nous devons être ouverts, être touchés par ça. Même si on a déjà entendu parler ça des tas de fois. Et donc, on va s'arrêter un certain temps là-dessus, ce matin. À commencer par ce que Dieu dit de lui-même. Pas seulement ce que les autres disent de lui, mais ce que Dieu dit de lui-même. Et il y a dans l'Ancien Testament quelques textes qui sont particulièrement importants parce que Dieu se présente. En disant des choses de son intérieur. Vous voyez ? Et c'est pas souvent. Souvent, Dieu se présente et il fait appel à l'histoire. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. D'accord ? Vous savez, il intervient dans l'histoire. C'est une info. Et puis de temps en temps, Dieu dit, très rarement, Dieu dit des choses qui sont sur son cœur. Où il se présente. Je suis. Et puis là, il parle de son cœur. Et on va commencer à passer du temps sur un de ces textes-là, et puis ensuite sur un autre texte où Dieu se révèle, même si le mot compassion n'est pas là, il est au cœur de la présentation de Dieu. Le premier texte, il se trouve dans le récit du veau d'or, qui se trouve dans Exode 32 à 34, donc on ne va pas tout lire. Vous savez que Moïse monte sur la montagne pour voir le Seigneur, et puis c'est long, ça dure. Soit Dieu avait beaucoup de choses à dire à Moïse, soit Moïse était tellement bien avec Dieu qu'il n'était pas pressé de descendre. Mais ça dure. Et puis les Israélites commencent à stresser en bas. Où est Moïse? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il n'est pas mort? Parce que Dieu, quand les Israélites sont arrivés au chapitre 19, il y avait des éclairs, il y avait du tonnerre, il y avait de la fumée. Ils ont eu très peur. Donc ils se sont dit, est-ce que Moïse est encore vivant? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont géré leur stress, comment? En demandant à Aaron de leur construire un taureau pour représenter Dieu qu'ils avaient fait sortir d'Égypte. c'est une gestion de la peur, de l'insécurité, fondamentalement, cette chose-là. Et Moïse, il n'en sait rien, il est là-haut, et puis d'un coup, Dieu va dire à Moïse, va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont vite écartés de la voie que je leur ai prescrite, ils se sont fait un tourillon de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant laisse-moi faire, je vais me mettre en colère contre eux, je les exterminerai et je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Moïse chercha à apaiser le Seigneur, son Dieu, et lui dit, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple, alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre. Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu voulais faire ton peuple. Et finalement, il dit verset 14, le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Mais la crise a été une crise très grave. Le Seigneur renonce au mal qu'il avait envisagé de faire à son peuple, qu'il a renié à travers le mot d'or, et il va demander à Moïse de continuer à diriger son peuple. Mais Moïse est perturbé. Moïse est perturbé par ce qui s'est passé. La colère de Dieu qui a failli détruire le peuple l'a stressé. Et discuter avec Dieu pour que Dieu renonce à son projet, ça l'a épuisé. Et il se trouve dans une situation où il se dit qu'il a besoin de mieux connaître ce Dieu qu'il a appelé à son service pour conduire son peuple. Est-ce qu'il va se mettre en colère chaque fois que le peuple va faire une faute? Comment ça va tourner cette histoire? Donc Moïse va faire une demande au Seigneur. Et on peut passer le test là, sur le vidéoprojecteur, si ça marche. Ok, vous l'avez? Donc les autres cas, verset 12, verset 33, verset 12, pardon. Moïse dit au Seigneur, vous avez une autre version très mienne, excusez-moi, mais regarde, tu me dis, fais monter ce peuple. Pourtant, tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi, bien que tu m'aies dit, je t'ai distingué par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai, je trouverai grâce à tes yeux. Continue. Dieu dit, j'irai moi-même, toi, je t'accorderai le repos. Moïse va pousser un peu le bouchon en disant, si tu vas pas toi-même, ne nous fais pas monter ici. Et à quoi saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons traités différemment, moi et ton peuple, de tous les peuples de la terre? Nous serons traités différemment aussi par rapport aux fautes que le peuple pourrait faire. Seigneur de ta Moïse, je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je t'ai distingué par ton nom. Et alors Moïse fait sa prière, fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Il veut connaître un peu plus de Dieu que ce qu'il sait déjà. Il veut une révélation nouvelle de Dieu. Donc il le dit dans son langage, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir qui tu es. Dieu répondit, verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur dans la culture juive, ce n'est pas juste une appellation, une étiquette qu'on met sur quelqu'un, on l'appellera un tel, mais ça dit quelque chose sur la personnalité de l'individu. C'est pour ça qu'on change parfois les noms, parce que l'individu qui a rencontré Dieu est appelé à quelque chose de neuf, mais on change son nom. Abraham, Simon, qu'on appellera Pierre, etc. Et donc, je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Et il dit déjà quelque chose en anticipation de la suite. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et Dieu ajouta, tu ne pourras pas voir en face, car l'être humain ne peut me voir ni vivre. Et le Seigneur dit, voici un lieu près de moi, tu tiendras sur le rocher. Je passe au verset 4, chapitre 34. Moïse se lava de bon matin et monta sur le mont Sinaï comme le Seigneur lui avait ordonné. Il prit les deux tablettes de pierre, Le Seigneur descendit dans la nuée, se tient là auprès de lui, et il proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui en proclamant, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour le sang, qui fait rendre des comptes au Fils et au bénéfice pour la faute des pères, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Voilà un texte, le premier texte, probablement dans l'Ancien Testament, où Dieu dit quelque chose sur son cœur, sur son intimité. C'est pour ça, c'est un texte qu'on devrait absolument connaître par cœur. C'est un des textes les plus importants du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament et de toute l'Écriture. Ce n'est pas parce que nous croyons que toute la Bible est inspirée qu'il faut croire que tous les textes se valent. J'espère que vous avez compris ça, parce que sinon... Là, nous avons un texte qui est un des sommets de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc c'est un passage clé dans cet testament, un des rares, où nous avons une présentation de Dieu lui-même. Pas seulement une manifestation extérieure de Dieu, sous forme de puissance, etc., etc. comme dans Exode 19, où quand le peuple est arrivé au mont Sinaï, il y a des tonnerres, des éclairs, il y a des nuées sur la montagne, et le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple fut saisi d'épouvante. Ça, c'est une révélation classique de Dieu, et puis les gens ont peur. Comme Ésaïe 6, vous voyez, ils voient le trône, on crie « Saint, 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 le Seigneur », les portes sont ébranlées par la voix qui retentit, et la maison se remplit de fumée, et Ésaïe dit « Malheureusement, je suis perdu, car je suis un homme impur, comme lui d'un peuple dont les lèvres sont impures, et j'ai vu l'offre. » Mais le tonnerre, les éclairs, la nuée sont comme une manifestation extérieure de Dieu. Ce n'est pas une manifestation centrale de Dieu. Ça ne dit pas quelque chose sur le cœur de Dieu. Ici, on va apprendre des choses sur le cœur de Dieu. Et la première chose qu'on apprend, la toute première, c'est qu'il est compatissant. C'est pas mal, hein ? Il a compassion. Il a compassion, il est clément, il est patient, et il est grand par la fidélité et la loyauté. On peut compter sur lui. Il est fidèle jusqu'à la millième génération. Il pardonne tout. La faute, la transgression, le péché. C'est une addition de trois choses pour dire qu'il pardonne tout. D'accord ? Mais, alors là on a vu des choses hyper sympas, merveilleux, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est là que sa sainteté, il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Dans ce texte, on peut déjà repérer ce que dira de manière plus claire le Nouveau Testament, que l'expression la plus parfaite pour désigner Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Dieu proche, attentif aux humains, et notamment à son peuple. Il a compassion envers un peu plus loin d'autres choses qui vont en parler. Il est prêt, il a compassion parce qu'il sait la misère des êtres humains, la fragilité. Il est toujours prêt à pardonner, mais le pardon, ce n'est pas juste faire comme s'il n'y avait rien eu. D'accord ? Il n'est pas d'accord pour tenir le coupable pour l'innocent. Mais il est prêt à pardonner le coupable. Mais pas faire conseil dans les. D'où la nécessité, nous avons pour nous de la repentance face au pardon. Pas seulement à la compassion, mais aussi tout au long de notre vie spirituelle, comme le rappellera l'apôtre Jean dans sa deuxième lettre. Dieu est saint, il ne tient pas le coupable pour l'innocent, mais on voit bien ici que sa sainteté n'est pas l'aspect prioritaire de sa personne. La compassion et la clémence sont plus importantes. Elles sont dites d'abord de manière massive. Et
il y a la comparaison
entre la fidélité au milieu génération et la faute qui va jusqu'à la
troisième. La troisième génération qui montre aussi la différence. Si Dieu accordait autant d'importance, si vous voulez, à la sainteté qu'à la clémence, eh bien la fidélité irait jusqu'à 1000 générations, mais la faute aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a cette comparaison entre les 1000 et les 3-4 qui sont là pour dire à quel point l'amour de Dieu est plus important. Même si on ne peut pas évacuer le reste. Un autre texte qui va nous parler et qui est centré sur la compassion de Dieu, c'est le psaume 103. Alors on saute le psaume 103, qui est une méditation à partir de ce que nous venons de lire. D'accord ? L'autoprésentation de Dieu que nous venons de lire à Moïse, elle revient régulièrement dans l'Ancien Testament, dans plusieurs passages, et le psaume 103 est une méditation sur cela. Vous connaissez le début, hein ? Il est connu. Je saute tout de suite au verset 3. Dieu pardonne toutes tes fautes. Il guérit toutes tes maladies. Il reprend ta vie à la fosse. Il te couronne de fidélité et de compassion. Il rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Il fait connaître ses voies à Moïse et offert aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Vous voyez, c'est exactement la phrase qu'on avait avant. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. On revient à la compassion. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils, etc. On a une reprise de ce que Dieu a dit à Moïse. Et une méditation amplifiée un peu de ce qui est dit là-dedans. Il pardonne toutes tes fautes. Alors là, on ne dit pas péché, faute, transgression, etc. On dit toutes tes fautes. Il est capable de pardonner toutes les fautes. Il est capable de guérir toutes les maladies, de reprendre la vie à la fosse. Ça, c'est pour les... Qui reprend ta vie à la fosse, ça, c'est quand on est sur le point de mourir. Il couronne de fidélité et de compassion. Donc compassion, vous le voyez, revient quatre fois. Pardon, revient trois fois dans notre texte. Il te couronne de fidélité et de compassion. Il rassasie de bien ta vieillesse. La compassion, c'est que le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Verset 8, on a la reprise. Et c'est très beau comment Dieu est par rapport au péché. Il n'accuse pas sans cesse. Il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Parce qu'il pardonne. Et un peu plus loin, Dieu a compassion parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il connaît notre fragilité. Dieu ne connaît pas seulement notre péché, mais il connaît aussi notre fragilité. Et il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas mélanger les deux. Dieu a compassion de nous aussi, car il sait que nous sommes mortels. Comme la fleur qui pousse et qui disparaît, dès qu'il y a trop de vent, ou dès qu'il ne pleut pas pendant très longtemps, comme on a connu ça ici. Dieu nous connaît dans l'ensemble de nos réalités, qui sont encore une fois marqués d'un côté par la fragilité, d'autre côté par le mal, et donc notre misère, si vous voulez, hein, notre double misère. Et son attitude, c'est la compassion par rapport à cela. C'est la compassion. et une compassion où il est touché. Il est touché par ces choses-là. Elle ne le laisse pas indifférent. Et il intervient. Il intervient. Il intervient notamment, et c'est dit dès le début, pour le pardon. Verset 3. Il pardonne toutes tes fautes. Verset 9. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Heureusement, la compassion, c'est un des sens profonds de la compassion, c'est de ne pas enfermer notre prochain dans les fautes qu'il commet vis-à-vis de nous. Dieu est comme ça. Il sait qu'on est pécheur, mais il ne va pas discutailler autour de ça pendant des siècles. C'est bien, moi j'aime bien comme c'est dit ici. Hein. Il n'accuse pas sans cesse. Il n'accuse pas sans cesse. Il pourrait. On lui donne suffisamment de grains à moudre, entre guillemets, dans notre style de vie, pour qu'il puisse nous accuser sans cesse. Hein. En tout cas, moi, pas de souci, je lui en fournis. Hein. Mais Dieu, il ne veut pas que la relation avec lui soit organisée autour de cette histoire de péché. Son but, c'est de pardonner. C'est de ne pas nous enfermer, mais de nous pardonner, de nous relever par rapport à nos fautes. Parce qu'il sait, ce que parfois nous oublions quand nous parlons des péchés, c'est que le mal que nous commettons ne nous fait pas du bien. Le mal que nous commettons, alors on ne se rend pas toujours compte tout de suite, et puis ça dépend des cultures, nous sommes dans une culture où on se fait du mal et c'est non seulement c'est pas condamné, mais ça peut même être valorisé jusqu'à un certain point. On a passé récemment, cette semaine, un film sur une fille de 13 ans qui s'est suicidée parce qu'elle était harcelée par ses copines. Apparemment, personne n'a trouvé que c'était pas bien dans la classe. Et il se passe des choses aujourd'hui où on valorise certains comportements qui sont pas des bons comportements, et puis voilà. Dieu ne nous enferme pas. Là-dedans, il sait que le mal que nous faisons, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, est un mal qui nous fait du mal. Et c'est important, ça. Et Jésus aura le même regard. Jésus, il sait que cette femme de mauvaise vie, qui vient pleurer à ses pieds, qui lave ses pieds avec ses larmes dans la maison d'un pharisien, est une femme qui souffre. C'est pas juste une femme qui collectionne les mecs. C'est une femme qui souffre. Nous avons trop souvent une vision trop moralisante du péché. C'est bien, c'est pas bien. Bien sûr, on peut, il faut le dire. Dieu ne va pas dire que le mal, c'est bien. Hein. Mais Dieu voit la misère et la souffrance de ceux qui pêchent. Et ça fait partie, au plus profond de sa compassion, et c'est pareil pour Jésus. C'est pareil pour Jésus. Quand Jésus rencontre Zachée, il ne voit pas le sale type qui s'enrichit sur le dos des autres et qui est devenu chef des péagers parce qu'il était très efficace. Vous voyez le texte, il dit « péager, chef des péagers, riche ». Si vous savez lire, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Parce que il n'y a pas de hasard là-dedans. Il y a une présentation qui dit, d'une manière qu'on n'a pas l'habitude, mais qui est très claire, qu'il s'est beaucoup enrichi grâce à son boulot. Et qu'il est même devenu chef grâce à son boulot, ça veut dire qu'il arrive à extorquer avec beaucoup d'efficacité. À remplir non seulement les caisses de l'État, mais aussi les siennes. Parce qu'on est quand même, on devient chef au mérite. Hein. Le texte, il dit ça en douce comme ça, pour nous en tout cas, qui n'avons pas l'habitude de le lire comme ça. Après, nous savons, c'est pas seulement les pharisiens pénibles qui disent c'est un pécheur, ça, ils le disent à plusieurs reprises, mais c'est toute la foule qui dit ça. Parce que tout le monde sait qui c'est ce genre de bonhomme. Mais Jésus voit quelqu'un qui est en train de chercher. Jésus sait que c'est quelqu'un qui le cherche. Zachée veut le voir. Hein. On ne sait pas pourquoi, comment Jésus savait que Zachée voulait le voir, mais Zachée voulait le voir. Et donc il monte pour le voir parce qu'il est trop petit. Mais il a tellement la honte qu'il n'oserait jamais dire à Jésus, viens, je t'invite. Il sait bien que lui... Et donc il faut que Jésus fasse le premier pas. Et le texte dit qu'il était tout content. C'est peut-être le seul texte de la Bible où Jésus s'invite chez quelqu'un comme ça. D'habitude, c'est d'autres qui disent « Jésus, aide-moi, Jésus ceci, Jésus cela ». Vous voyez ? Et là, on a un texte où Jésus tape l'incruste, comme diraient les jeunes. Et ce fait que c'est une des seules fois où c'est comme ça, il prend aussi l'initiative avec la Samaritaine, par exemple, mais c'est un des rares textes où Jésus prend l'initiative comme ça, doit nous rendre attentifs à ce que ça signifie. Si vous voulez bien étudier un texte, notamment dans les évangiles, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qu'il n'y a pas ailleurs ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qu'il n'y a pas ailleurs ? Et c'est déjà assez, il y a un truc, Jésus s'invite lui-même chez quelqu'un. Et ça, il n'y a pas ailleurs en général. Jésus sait que Jésus devine, ou discerne plutôt, chez cet homme, qui a tout ce qu'il faut, mais il est riche. Bon, les gens le détestent, mais bon, il savait à la base que ce serait comme ça. Qu'il s'est enrichi. Il discerne qu'il y a quelque chose qui manque. Qu'il n'est pas forcément heureux. Et il va le voir. Et effectivement, sa vie va changer. Sa vie va changer parce que d'un coup, il a trouvé mieux. Il a trouvé mieux qu'augmenter tout le temps son compte en banque. Il a trouvé quelque chose de plus génial que de passer son temps à s'enrichir. Il a rencontré Jésus. Mais la compassion, c'est ce regard qu'on a. Et moi, je pense qu'une de nos difficultés en tant que témoin, ou en tant qu'évangéliste, en tant que témoin, c'est que nous avons parfois trop tendance à moraliser les fautes des gens qui sont réelles, pas de souci. Il ne faut pas dire qu'elles ne sont pas là. Mais si on a que ce regard-là, on va avoir du mal à les rencontrer. Alors que Jésus, lui est arrivé à rencontrer des gens qui étaient profondément enfermés dans leur vie, enfermés dans leurs fautes, enfermés dans le regard des autres sur leurs fautes aussi. Parce qu'il ne voit pas que le péché, il dit pas seulement que c'est des gens perdus, il dit aussi que c'est des gens qui sont malades. Ce qui est une manière de dire leur souffrance. Hein. Ils sont malades. Il dit, je suis comme un docteur qui est venu pour les malades. Je suis venu pour les malades et pas les bien portants, dit-il. On le verra encore dans la suite. La compassion, c'est ce regard. Ça commence par ce regard qu'on a sur les autres. Et suivant le regard qu'on a sur les autres, on va agir de telle ou telle manière. Alors, je voudrais proposer toujours par rapport à Dieu un autre texte le premier livre des rois à propos d'Élie. Parce que peut-être que le seul texte qui correspond à celui de Moïse qui reçoit une révélation de Dieu centré sur la clémence, la fidélité, le pardon, la compassion, peut-être qu'un des rares textes équivalents de ça, c'est quand Dieu va se montrer à Moïse. Vous voyez, sur le mont Horeb. Alors c'est un texte très intéressant. Vous connaissez l'histoire. Élie s'oppose au prophète Akab, qui, notamment sous l'influence de sa femme, délaisse le culte du vrai Dieu pour imposer le culte de Baal. Akab et sa femme cherchent à éliminer tous les prophètes de l'Éternel. Et Élie va avoir un ministère d'opposition à ça. D'opposition à ça. Au début de notre texte, on peut peut-être mettre... non, pas encore. Au début de 1 roi 19, juste avant 1 roi 19, Élie a gagné un concours, entre guillemets, avec les prophètes de Baal. Baal se révélait en faisant brûler l'offrande, et donc Baal était le vrai Dieu, vous connaissez l'histoire, soit c'est l'Éternel, et on savait que c'était lui le vrai Dieu. Élie a gagné. Dieu s'est révélé. Élie a massacré les 450 prophètes de Baal. Et c'est le sommet de sa carrière, d'une certaine manière. Mais le texte dit au début de chapitre 19 que Jézabel veut la peau d'Élie, elle le dit publiquement. Élie s'en va parce qu'il a peur et il est déprimé et il veut mourir. Il est déprimé et il veut mourir. Je vous retrouve ce texte pour le lire, ça vaut le coup de le lire. 1 Roi 19. Puis on va. Oui, il est un peu lent mon truc, voilà. 1 Roi 19, on y est. Élie alla dans le désert à une journée de marche, il s'assit sous un genêt, il demanda la mort, en disant « Ça suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà. » Élie déprime. Il est à bout. Il est à bout. Et Dieu va s'occuper de lui. Et après avoir dit ça à Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères, il se couche et il s'endort. Puis un messager le toucha, le réveille, le touche et lui dit, lève-toi et mange. Élie regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis il se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donne cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. C'est très intéressant parce que Dieu va d'abord s'occuper d'Élie. Élie est fatigué. Élie n'a pas assez dormi, visiblement, parce qu'il dort beaucoup dans nos textes au début. Il va le nourrir. Comme on dit, il va prendre soin des besoins de base, des besoins primaires d'Élie. Pour qu'Élie se redresse, un minimum, et soit un minimum en forme. Puis Élie va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. C'est justement là où Dieu s'est révélé à Moïse. Il entre dans une grotte et il dort. Il passe la nuit là-bas. Puis il y a une parole du Seigneur qui lui vient. Que fais-tu, Élie ? Élie répond, j'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées. Les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. Et il y a ce texte, maintenant on peut le passer. Vous voyez là. Ce texte extraordinaire où Dieu dit, sors et tiens-toi devant la montagne, dans la montagne devant le Seigneur. Et le Seigneur passe. Et il y a un grand vent violent qui arrache les montagnes et qui brise les rochers devant le Seigneur. Donc pas juste un petit coup de vent, mais vraiment une tempête plus. Le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, ça fait un tremblement de terre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu dans un tremblement de terre, là, ont déjà connu ça. Il paraît que c'est assez angoissant comme truc, quand même. Le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Puis il y a un feu. Le Seigneur n'est pas dans le feu. Et après le feu, un calme, une voix ténue, ou comme j'aime bien cette expression, qui dit un murmure doux et léger, comme disent les belles traductions secondes. Un murmure doux et léger. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand Élie l'entend, ce murmure doux et léger, il comprend que c'est Dieu. Il comprend que c'est Dieu. Et il sort. Il s'enveloppe dans le visage de son manteau pour ne pas voir. Il sort et il tient à l'entrée de la grotte. Et le dialogue reprend. Et Dieu va poser la même question et Élie va faire la même réponse. On peut se dire, mais à quoi ça sert de refaire la question et de refaire la réponse? Parce que c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait avant. Sauf qu'entre-temps, Élie a fait une découverte nouvelle de Dieu. Dans la douceur d'une voix ténue, calme. Pourquoi cette révélation? Quand vous lisez les passages précédents, Élie est un homme qui apparaît plutôt dans la violence. Il voit son ministère comme un ministère de confrontation avec le roi et le peuple. Et cette confrontation va connaître son apogée lors du match, entre guillemets, avec les prophètes de Baal. Élie demande à Dieu une manifestation extérieure visible. Le feu qui descend, voilà. Une manifestation extérieure qui devrait convaincre les Israélites que le Seigneur est le seul Dieu. Et Dieu marche là-dedans. Sauf qu'après, il va lui montrer que ce n'est pas là-dedans qu'il est prioritairement. Ni dans la tempête, ni dans le feu, tiens, c'est bizarre le feu, hein. Ni dans le tremblement de terre. Et c'est étrange parce que Moïse, Élie, il voyait Dieu là-dedans d'abord, puisqu'il demande à Dieu de se manifester ainsi dans l'histoire du sacrifice. La violence d'Élie, elle se voit aussi quand victorieux, il égorge lui-même les 450 prophètes de Baal. Ça ne lui pose pas de problème. Et il pense qu'il est fidèle à Dieu quand il fait ça. Bon, je suppose que personne d'entre nous n'a égorgé 450 personnes en une fois. Peut-être même pas en une fois. Mais probablement que ça a participé de la dépression d'Élie. Ceux qui n'ont jamais fait ce genre de truc peuvent trouver ça très romantique. Ou trouver que dans les westerns, c'est bien quand le bon tue tous les méchants. Mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Peut-être qu'Élie avait cette idée, un peu comme nous, avec les westerns. Je tue tous les méchants et après ça va aller. Bon, il a tué pas mal de gens, mais ça ne marche quand même pas. Il y a toujours Jézabel qui est là. Et d'un coup, il a peur. Élie se prenait comme le résistant. Ils t'ont tous abandonné. Moi, je tiens le coup. Je suis seul. Moi, je suis seul. Et sa dépression s'articule sur plusieurs choses, mais entre autres sur le fait que d'un coup il a peur et il craque, et la première chose qu'il dit, parce qu'elle est angoissante pour lui, « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » On ne l'a pas lu, c'est un texte avant. « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ça, c'est une super angoisse quand on s'est cru le prophète qui était le seul qui résistait face à tous les autres, dans une espèce de vision héroïque du ministère. Vous voyez ? Héroïque et aussi isolé, hein, forcément. Il a besoin de dire ça à un moment, et il le dira tout au début. Ensuite, il ne le dira plus, la réponse sera surtout que les Israélites ont abandonné l'Alliance, et que lui il est resté, seul, et il cherche à prendre la vie. Mais il y a cette idée de la solitude, de l'héroïsme et de la violence. Et Dieu va lui montrer qu'il n'est pas comme ça, qu'il n'est pas un Dieu de violence, et qu'en fait, quand on s'approche du cœur de Dieu, au-delà des manifestations visibles extérieures, il y a la douceur, il y a le son doux et léger. Plus on s'approche du cœur de Dieu, plus on remarque ça. Plus on est loin de Dieu, plus on a l'impression que c'est la guerre, la violence, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc, la révélation à Élie est une étape de la révélation de Dieu qui va aussi se développer chez les prophètes et qui va éclater en Jésus-Christ, évidemment. Sur toutes les questions-là. Dieu va montrer à Élie autre chose que ce qu'Élie croyait, mais il va le faire sans aucun reproche. Sans aucun reproche. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a aucun reproche. Il va quand même lui dire, tu sais, tu n'es pas tout seul, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et Élie aurait dû le savoir, et il le savait en plus, parce que à un moment, il rencontre un serviteur du roi qui lui dit, j'ai caché 100 prophètes, 50 par 50, pour qu'ils ne soient pas tués par Jézabel. Élie savait pertinemment qu'il n'était pas seul. Mais il s'est construit une vision de son service et de son ministère. Et en ça, il est un très bon contre-exemple pour nous, les responsables. Il s'est construit une vision de service où il s'est dit, je suis le seul, moi, Élie. Vous voyez ? Et Dieu travaille ces choses-là en lui pour qu'il comprenne Dieu autrement, mais aussi pour qu'il voit le reste, évidemment, autrement. Parce que si on comprend Dieu autrement, tout le reste peut changer dans notre représentation des choses et dans notre service. Le mot compassion n'est pas dans le texte que nous lisons, mais il est dans l'attitude de Dieu envers Élie. Il va le prendre par la main, il va lui dire « Dors un bon coup, mange un bon coup, pose-toi, puis après on va discuter. » Vous voyez ? Il y a beaucoup de douceur dans ce truc. Une prise en compte des besoins élémentaires d'Élie, aucun reproche. Il n'est pas en train de dire « Quoi Élie, toi tu craques alors que tu étais Élie le héros ? Qu'est-ce qui se passe mon pote ?» Pas du tout, pas du tout. On verra aussi, et je le dis déjà maintenant, que un des aspects principaux de la compassion, c'est qu'elle n'est pas jugeante. C'est qu'elle n'est pas jugeante. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas du péché. Dieu parle du péché quand il dit qu'il est compatissant. Hein ? Vous vous rappelez ? Mais pas sur le mode de juger les autres. Et avec Élie, c'est comme ça. Donc, voilà, ça c'est mon point de départ, si vous voulez. La chose la plus importante pour nous, peut-être ce matin, la compassion fait partie de la nature même de Dieu, de son cœur. Il est important de le comprendre pour plusieurs raisons. Nous avons besoin d'avoir une image juste de Dieu pour l'adorer et le servir, comme il le demande. Dieu a compassion. Et il a compassion des pécheurs, même des pires. Il a eu compassion de Paul, de Saul de Tarse, alors qu'il a mis des tas de chrétiens en prison et que un certain nombre sont sans doute morts. Il a compassion. Et dans sa compassion, il va à la rencontre des gens. Comme là, il est allé à la rencontre d'Élie. Et il prend soin. Élie est un exemple de croyant qui a dû purifier sa vision de Dieu, dans le sens de plus d'amour et de compassion. Et c'est quelque chose que nous avons probablement besoin de faire régulièrement dans notre propre vie. Et parfois aussi, on rencontre des gens qui ont une vision de Dieu qui leur fait peur. Ils pensent que Dieu les juge et les condamne pour toutes leurs fautes. Ils confondent Dieu avec une espèce de super flic. Ils le confondent avec leur conscience. Et la compassion de Dieu leur échappe. Nous avons besoin d'une image de Dieu, juste de Dieu, parce que cette image juste nourrit notre foi et notre amour pour lui en échange. Le mot pour compatissant, ou on peut traduire aussi parfois par miséricordieux, vient d'un mot qui désigne les entrailles, mais qui désigne aussi l'utérus féminin. Donc André Chouraki, qui est un juif qui a fait une traduction en français de la Bible, un peu spéciale, mais très intéressante, André Chouraki dit que le Seigneur est matriciel. Et que sa qualité de compassion est essentiellement à quelque chose de féminin et de maternel. Le Seigneur Dieu nous aime comme une mère et pas seulement comme un père. C'est normal puisqu'il est Dieu. Il n'est pas seulement féminin, il est aussi masculin. Et il concentre en sa personne l'amour d'une mère et l'amour d'un père. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout compris parce qu'on a du mal à se le représenter. Hein. Lui seul est capable de ça, nous on n'y arrive pas. Mais c'est intéressant de voir que c'est dans l'Écriture. Et on ne le dit pas assez souvent. On a cette idée de Jésus qui parle de Jérusalem et il dit « Dieu aurait voulu comme une mère qui rassemble, comme une poule qui rassemble ses poussins, vous rappelez ?» On a déjà cette image un peu maternelle. On le retrouve dans certains textes, mais on n'y pense pas assez souvent. Dieu est porteur de cet amour maternel et de cet amour paternel. La compassion de Dieu, aussi dans le Nouveau Testament, est décrite à partir des entrailles. Par exemple, en Luc 1,78, c'est une phrase à propos de Jean-Baptiste. « Tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu. » Alors, entrailles de miséricorde, c'est la traduction littérale. Dans la Nouvelle Bible Seconde, il parle de tendre compassion. Vous voyez qu'on rate quelque chose avec ça. Dans la traduction, dans la traduction littérale, dit les entrailles de miséricorde. Et le verbe avoir les entrailles remuées ou être pris aux tripes, comme vous voulez, s'applique au père prodigue, au père du fils prodigue, quand il le voit venir en Luc 15, verset 20. Cette image de Dieu et des entrailles. Alors Dieu est proche des pécheurs, et il y a un texte magnifique, je ne sais pas si tu as le temps de le passer peut-être, dans Genèse 4, un très beau texte. On peut le prendre au début, hein. C'est l'histoire de Cain et Abel, vous la connaissez ? Oui ? Dieu portait un regard favorable sur Abel et son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Cain ni sur son offrande. Cain fut très fâché et il se renfrogna. Le verset 6 et 7 sont absolument géniaux. Le Seigneur dit à Cain : pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfrogné ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. Cain est perturbé, Cain est en colère, ça rumine en lui, ça bouge en lui, et d'un coup Dieu vient le voir. Dieu vient le voir. Et Dieu lui dit, d'une certaine manière, je sais bien par quoi tu es tenté, mais ne le fais pas. Le péché est à ta porte, et le désir du péché se porte vers toi, et toi domine sur toi.
De manière que Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de Cain, mais comme un père a compassion de ses enfants, il va s'approcher de Cain pour lui dire, fais pas ça. Fais pas ça. Il y a mieux. Ne te laisse pas vaincre par le péché, mais toi domine sur toi. Ne te laisse pas vaincre par le mal qui bouillonne en toi et te pousse à faire des choses. Il y a de la compassion. Dieu essaie de prendre soin de Cain. Il lui explique les choses. Il lui montre l'alternative. Il lui montre un autre chemin que celui auquel Cain pense. Il prend soin de lui. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Mais j'aime ça. Dieu aurait pu dire, je sais déjà ce qu'il va faire, ce pauvre mec. Quel horreur, il va tuer son frère. Ben, ne vis pas comme ça. Et Dieu veut essayer de récupérer avant que ce soit trop tard. Dieu, qui sait ce qu'il y a dans le cœur de Cain, aurait pu être dégoûté par Cain. Vous voyez ? Et le dégoût est une notion dont on pas, à laquelle on ne doit pas faire attention. Que le péché nous dégoûte, c'est pas évidemment Dieu est dégoûté par le péché. Mais Dieu n'est pas dégoûté par les pécheurs. Et ça, on le voit dans l'Écriture et notamment dans le ministère de Jésus. Les pharisiens sont dégoûtés par les pécheurs. On le voit clairement. Parce que c'est aussi une pente naturelle. C'est une pente naturelle d'être dégoûté par les pécheurs. Mais la compassion surmonte cette pente naturelle. La compassion va au-delà de la répulsion qu'on pourrait avoir par rapport à un pécheur. Elle est un combat. Elle est parfois un combat, la compassion. Mais la compassion de Dieu va aussi vers les orphelins, les veuves, les malades, les faibles, les affligés, les opprimés, les étrangers. Et on pourrait sûrement arranger là-dessus. Il y a la compassion de ces gens-là. Et alors, on n'a pas vraiment le temps d'aborder le sujet, parce que ça mériterait une journée à soi tout seul. La loi de Moïse prévoit toute une série de dispositifs pour aider les personnes en situation de difficulté. Les orphelins, les veuves, les étrangers, les surendettés. Il y a quelque chose que les surendettés hein, dans la loi de Moïse. Même si on doit des millions, même si quelqu'un nous doit des millions, je ne peux pas lui prendre son manteau parce qu'il faut lui prendre le manteau le jour, je vais lui rendre la nuit pour qu'il puisse dormir sans avoir trop froid. Typiquement un verset pour surendetté. La compassion de Dieu s'applique à toutes sortes de situations et va à toutes sortes de personnes. La loi interdit qu'on profite de la faiblesse de certaines personnes qui sont en situation de faiblesse. Mais on n'a pas le droit d'en profiter, c'est une horreur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la compassion de Dieu dans l'Ancien Testament n'est pas seulement une affaire de sentiment, mais c'est aussi une affaire d'organisation sociale. Okay ? Dieu organise la société. Et c'est exactement pareil dans l'Ancien Testament, la première communauté, où on met tout en commun pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Si on veut qu'il n'y ait pas de pauvres, il n'y a pas mille possibilités. Mais la première église, c'est de donner une organisation sociale par rapport à ça. Il peut y avoir des tas d'autres organisations sociales aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont bien rendus compte qu'il ne suffisait pas juste d'avoir du bon cœur et s'organiser les choses. Il y en a donc dans une structuration collective des choses qui manifestent, qui expriment la compassion, dans le soin pris au plus faible, pris par rapport au plus faible. Alors, je propose encore une autre lecture. Voilà, un exemple. Un exemple de compassion, de comment fonctionne la compassion. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. C'est la conclusion de, si vous voulez, de l'introduction à l'Exode. La première partie d'Exode montre les Israélites qui sont opprimés par les Égyptiens, nous parle de ce pharaon qui veut faire tuer tous les premiers nés masculins, nous parle de Moïse qui essaie d'intervenir mais ça ne marche pas du tout, il est obligé de partir, il s'enfuit dans le désert, il rencontre Jéthro, il marie sa fille et il fait sa vie loin de tout ça. Et comment se termine ce passage qui plante le décor, si vous voulez, de la suite. Donc, Exode 2, verset 22, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, sur moi le roi d'Égypte que Moïse a connu. Les Israélites gémissaient et criaient encore dans l'esclavage. Les appels au secours qu'ils lançaient dans l'esclavage montèrent vers Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et il sut. La compassion, ça commence par regarder et être attentif. Ou écouter et être attentif. Vous avez le verbe regarder. Donc d'abord, il va entendre, ça c'est 24. Et le verbe regarder, verset 25. Ensuite, il commence l'histoire de la libération proprement dite, avec Dieu qui va rencontrer Moïse avec le buisson ardent. Dieu va appeler Moïse, il va le faire d'abord en attirant son attention par un phénomène bizarre d'un feu qui ne brûle pas. Un feu au milieu d'un buisson, mais le buisson ne brûle pas. C'est à la fois extraordinaire, en même temps, c'est pas très menaçant, parce que ça ne brûle pas. Et Moïse dit, je vais faire un tour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Et il s'approche, et Dieu l'appelle au milieu du buisson. Et il appelle par son nom, Moïse. Et Moïse répond, je suis maître, ça va, approche pas d'ici, avec tes sandales, de tes pieds, car le lieu que tu es est une terre sacrée. Et Dieu ajoute, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se détourne, il a peur de diriger ses regards vers Dieu. Et Dieu dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple, et j'ai entendu les cris. D'accord ? J'ai vu, j'ai entendu. Et ça, ça déclenche tout le reste. Ça déclenche tout le reste. On se laisse Dieu interpeller parce qu'il voit et ce qu'il entend. Et il décide de faire quelque chose. Et ce quelque chose va commencer par Moïse. Et donc il va d'abord parler à Moïse, après il lui confie la mission de diriger son peuple, une sorte de défi. Voir et entendre. Et agir ou pas. Dans l'histoire du bon samaritain, le Lévite et sacrificateur, il voit et il passe. Le texte dit qu'il voit, mais il passe. Jésus, souvent, il entend, parce que Jean appelle au secours. Il appelle au secours et il entend. Et j'arrête. Il y a un très beau texte. Alors, c'est le récit de la veuve de Jéricho, mais dans Luc. Dans Luc, ils sortent de Jéricho, juste après Zachée, puis un aveugle par du chemin commence à crier. Et les gens autour de Jéricho, les gens qui sont là, qui entendent l'aveugle des premiers, disent, mais tais-toi, lâche-nous, vous pouvez nous l'appeler. Et leur rabrouille le texte. Ils sont en train de l'engueuler et d'essayer de le faire taire. C'est pénible, les gens qui crient souvent. Parfois. C'est énervant. Et puis d'un coup, Jésus s'arrête. Il ne dit pas un mot. Il s'arrête. Puis quand Jésus s'arrête, on s'arrête aussi. Forcément. Il s'arrête. Et Jésus sent que c'est compliqué. Il y a de la tension. Vous avez eu l'attention quand quelqu'un engueule un mendiant dans la rue? Alors peut-être pas trop à Dizon, mais à Strasbourg, t'as besoin. Hein. Quelqu'un engueule un mendiant dans la rue, quelqu'un qui demande dans le métro ou dans un bus quelque chose. Il y a de l'attention. Et Jésus, il est rempli de compassion, et la compassion, ça rend intelligent. Ça donne des idées. Jésus va dire, donc lui il s'arrête, il voit, il abandonne, il s'arrête. Et je vais juste un peu parce que c'est intéressant de voir la compassion en action. Jésus va dire, amenez-le moi. Et j'aime beaucoup ce texte, hein, vous m'avez peut-être déjà entendu là-dessus, mais amenez-le moi. Et moi, quand je lis ce texte la première fois, parce que je traduis du grec, je me lis, je me dis, pourquoi Jésus demande qu'on lui amène? On voit ça nulle part ailleurs. D'habitude, il est capable de faire le chemin tout seul. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de maîtres à faire. Hein. Je veux dire, si je l'entends, c'est qu'il n'est pas loin. Et c'est cette fameuse théorie que j'ai dit après. Repérer ce qu'on ne voit pas ailleurs. Repérer ce qu'on ne voit pas ailleurs. Et là, on ne voit pas ailleurs, je fais ça. Jusqu'à ce que je comprenne que les mêmes qui sont en train de l'engueuler vont prendre cet aveugle pour l'amener à Jésus. Vous voyez la chose. Ceux qui sont prêts de l'aveugle, bon, ceux qui ont entendu sont prêts, ils vont engueuler. Il a coup, j'ai dit, amenez-le-moi. Et les mêmes, un texte dit, ah, mais ça, c'est clair. Les mêmes qui ont emmené l'aveugle juste avant vont le prendre par la main et lui dire viens. Il t'appelle. Ça, c'est quand même génial. Ça, c'est un truc de non-violence ou de réconciliation absolument extraordinaire. Peut-être que si j'avais été à la place de Jésus, j'aurais engueulé les filles en disant vous n'avez pas compassion, pourquoi vous m'engueulez, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai une chose. Mais la compassion, elle n'est jamais jugement, quasiment jamais jugement. Jésus, il ne peut pas engueuler ses disciples. Pourtant, ça fait des années qu'il les enseigne et qu'il leur rappelle, qu'il leur apprend l'amour de Dieu, l'amour du prochain, tout. Et il y avait un bon moment pour leur faire la leçon quand même, c'était vraiment idéal, quoi. Un vrai cas d'école. Ben non. Jésus, il n'a pas la morale. mais il va s'arranger pour rétablir la relation. Pour que cette tension disparaisse dans ce changement d'attitude des uns vis-à-vis de cet aveugle. Voilà, en tout cas Jésus entend et lui il s'arrête. Ça c'est le début de la compassion, c'est comme ça chez Dieu, c'est comme ça chez Jésus, et ça devrait être comme ça aussi chez nous. Et il entend, il voit, et il va agir. Il va agir, il va libérer ce peuple. Et quand ce peuple va être libre de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, Dieu va lui donner la loi, c'est-à-dire les règles de vie, pour bien vivre ensemble. Parce que bien vivre ensemble, c'est compliqué. Et la loi est là pour montrer comment bien vivre ensemble. Nous avons une erreur de perspective fondamentale par rapport à la loi, parce que nous pensons, et ça c'est une grosse faute, que la loi gère nos relations personnelles avec les autres. Parce que nous pensons que la chose la plus importante de la loi, c'est uniquement. Sans quoi nous avons complètement faux, parce que Jésus lui-même dit que c'est. Parce que Jésus lui-même, il a un autre texte, mais il dit grandement pour dire le verset le plus important de la loi. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est Jésus qui dit ça, hein. Donc on devrait déjà dire, ça ne veut pas être uniquement ce que Jésus dit autre chose. Mais peut-être qu'on est tellement pris dans notre éducation, dans le catéchisme, etc., qu'on a du mal à s'en sortir. Et on oublie surtout tous les textes de la loi, ils sont très nombreux, qui parlent, encore une fois, ce que j'ai dit avant, des orphelins, des veuves, des surendettés, des malades, des étrangers, etc. Il y en a des dizaines, si vous l'additionnez. Et donc il y a toute une série, de textes qui sont sur la structuration du fonctionnement collectif. L'organisation du fonctionnement collectif. Et il n'y a pas tellement sur les relations interpersonnelles. Donc on a une erreur de perspective avec notre centrale, notre. Quand on est trop centré sur le moment, on a une erreur de perspective très grave. Et Dieu veut ça, Dieu ne va pas seulement libérer, mais il aimerait que ce peuple reste libre et se détruise pas par une vie sociale désastreuse. Et Dieu, dans sa compassion, va cheminer avec ce peuple. Et l'expérience qui va revenir régulièrement, très régulièrement, c'est bon, on pourrait même résumer la traversée du désert comme ça, c'est que le peuple va désobéir et que Dieu va pardonner. Dans des circonstances qui ne sont pas chaque fois les mêmes, et aussi avec un certain nombre de Dieu va pardonner, mais il va aussi, il va juger et il va pardonner. C'est-à-dire qu'il ne va pas tenir pour que ce soit les coupables, et il va pardonner. Mais un certain nombre de personnes vont mourir au fil du temps. Jusqu'à toute cette génération qui n'a pas voulu, qui n'a pas eu confiance en Dieu, qui a eu peur de prendre possession du pays, qui va mourir dans le désert, leurs enfants entreront dans le pays. Voilà, Dieu écoute, il entend, il agit. Il fait alliance, il pardonne, il renouvelle l'alliance, il pardonne. Le peuple, lui aussi des individus, comme David, comme Pierre, après son renouvellement, etc. Tout ça est enveloppé dans la compassion de Dieu. S'il y a un moment la compassion de Dieu venait à me manquer, et s'il n'y restait que son jugement, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus rien. Jésus témoigne et présente un Dieu rempli de compassion. Ça fait partie de sa dispute avec les pharisiens. Les pharisiens voient en Dieu celui qui a donné la loi et qui juge les gens d'après leur obéissance à la loi. Les bons obéissent à la loi et les mauvais n'obéissent pas à la loi. C'est la vision qu'ont les pharisiens, schématiquement, ça ressemble à ça. Et Jésus va parler d'un Dieu différent. Il va dire Dieu, c'est comme un père. Dieu est un père pour nous. Et le mot père revient fondamentalement, notamment dans un texte qu'on ne pense pas forcément, qui est le serment sur la montagne. On pense que le serment sur la montagne, c'est une liste de choses à faire. C'est pas faux. Mais le serment sur la montagne, c'est surtout une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Votre père sait de quoi vous avez besoin. Dans le serment sur la montagne, ça. Dieu vous pardonne. pardonner aux autres. Dieu est Père. C'est pour ça que la prière qu'il nous a appris commence par Père. Pour nous coller ça dans la tête. Et donc, Jésus travaille à ce que nous accueillerions une identité de fils de ce Père compatissant. Il a donné quelques exemples. Le plus connu, c'est le fils prodigue. Le Père accueille le fils prodigue et lui pardonne. Jésus va dire que Dieu veut la compassion et non le sacrifice. Le sacrifice, il est lié au péché, à la culpabilité et tout et tout. Et, Dieu dit, et je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il dit que la compassion est prioritaire sur ça. Et ici, le prophète Osée, chapitre 6, verset 6, il le cite deux fois en Matthieu, Jésus le répète cette citation d'Osée, en Matthieu 9, 13 et Matthieu 12, 7. Et puis il y a ce texte aussi, puis on prend d'autres, mais un autre texte où, qui montre Dieu. C'est la parabole du serviteur incroyable, mais on pourrait dire, nous on met toujours les titres sur les êtres humains parce qu'on projette dedans, mais on pourrait dire que le Fils prodigue c'est plutôt le Père aimant, enfin je veux dire, on pourrait plutôt mettre l'accent sur Dieu, nous on met sur celui ou celle qui nous ressemble, c'est-à-dire l'être humain qui montre là-dedans. Vous avez ce texte où un homme doit quelque chose qui doit représenter quelques milliers d'années de SMIC, vous voyez ? C'est énorme. Et il l'appelle pour qu'il le paye. Et le gars, il ne peut pas payer. Il dit, attends encore un peu, je paierai plus tard. C'est du flanc, évidemment, il ne paiera jamais. Et le texte dit, ému de compassion. Il lui remue la tête. Ému de compassion. Et là, vous avez le... ému de compassion, ça se traduit par les entrailles remuées. Enfin, le texte, traduction littérale, c'est les entrailles remuées. Remis la tête. Donc voilà, Jésus présente Dieu comme ça. Parce que la tradition juive a d'autres représentations de Dieu qui sont prioritaires sur celle-ci. On parle toujours de l'amour de Dieu. Mais c'est coincé dans d'autres représentations. Et celle de juge et de celui qui donne la loi et qui juge d'après la loi et celle qui s'impose dans la théologie de l'époque. Jésus va lutter contre ça. Et parfois, nous devons lutter aussi nous-mêmes, nous avons du mal à croire que Dieu est comme ça parfois. Je pense que pour nous, les croyants, notre problème, ce n'est pas de croire qu'il nous existe. C'est de croire qu'il nous aime. Ça, c'est un point spirituel beaucoup plus compliqué. C'est de croire qu'il nous aime, qu'il m'aime moi dans ma situation, qu'il m'aime moi avec mes problèmes, alors que je pense que si j'ai des problèmes, c'est qu'il m'aime peut-être pas comme ça. Qu'il m'aime moi avec des trucs qu'il développe dans ma vie, avec mes échecs, il m'aime. Comme un père, comme une mère. Il m'aime. Donc Dieu, Jésus présente ça. Avec force. Je passera, on va faire un travail en groupe, mais je vous parler rapidement de la situation concernant Jésus. Matthieu, Marc et Luc utilisent ce verbe qu'on vient de trouver à propos du maître qui remet une dette énorme. Donc ce verbe qui signifie être lué dans ses intestins, être iotrique, on peut très bien vous voulez, ou dans l'éventail. Parce que pour les Israélites, et pas seulement eux à l'époque, les entrailles sont le siège des émotions. D'ailleurs aujourd'hui on dit simplement le ventre, j'ai une boule au ventre, vous voyez hein. Quelque chose nous prend là. Donc nous aussi on le fait parce que ça, quelque chose se passe là. Oui ? Vous l'avez déjà entendu cette expression, hein, ça montre. Quelque chose se passe là. La boulot. C'est une émotion à la fois forte et quelque part perturbante. Perturbante. Ça nous prend aux entrailles. C'est pas un amour gentil comme ça, toujours truc. Non, c'est un truc. La situation que je vois, dans laquelle l'autre se trouve, ça me perturbe. Et Jésus, il est habité par cette émotion. Et on retrouve ce verbe, très intéressant, on retrouve ce verbe prioritairement quand il voit la foule. Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut pris aux entrailles pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà ça dans Matthieu 9, 36 et dans Marc 6, 34. Matthieu 14, 14, quand Jésus sortit de la barque, il y avait une grande foule qui fut pris aux entrailles pour elle. Et il guérit les malades. Deux textes, enfin, Matthieu et Marc, juste avant la deuxième multiplication des pains, on lit, Jésus ayant ses disciples dit, je suis pris aux entrailles parce que pour cette foule, voici trois jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien mangé. Ah, c'est intéressant, c'est pas pris aux entrailles en fait. Hein. Je les ai pris en tête parce qu'ils n'ont rien mangé depuis trois jours. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent. Et vous trouvez ce verbe pris aux entrailles pour vous de deux aveugles dans Matthieu 20, 34, un lépreux dans Marc 1, 41. Un père fait appel à la compassion de Jésus pour son fils possédé. Et il lui dit, sois pris aux entrailles. Et puis il y a le fils de la veuve de Naïm, vous voyez comme ce texte. Hein. Jésus voit le cortège funèbre là. Il voit la mère qui pleure. Et il est pris aux entrailles quand il voit la mère. Dans l'évangile de Jean, on n'a pas ce verbe. Mais on a Jésus pleure. Jésus voit Marie et les amis de Lazare pleurer. Et en voyant Marie et les amis de Lazare pleurer, il est fortement secoué. Peut-être comme ça. Il frémit. Il y a un tremblement intérieur. Fort. Et il s'est mis à pleurer lui aussi. En voyant d'autres pleurer, il s'est mis à pleurer aussi. Jésus. C'est intéressant, il n'y a pas de nous. Et parfois pleurons quand on va de pleurer. Sa compassion, elle est une compassion. Ici, c'est une compassion tout à fait classique. Et il est nouveau secoué fortement, trois versets plus tard, 1135, juste. Et c'est là qu'il va commencer à dire bouger la chair et tout le truc. Puis Jésus pleure sur Jérusalem, vous le savez, parce qu'elle ne s'est pas convertie, parce qu'elle n'a pas voulu que Dieu la visite. Cette compassion de Jésus, il ne faut pas seulement la placer dans l'histoire de l'Évangile, mais elle est essentielle dans notre vie spirituelle. L'Épître aux Hébreux écrit, nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Il est capable de comprendre ce qu'on vit. Parce qu'il a été tenté aussi. Alors lui, il n'est pas tombé, nous l'est tombé, ok. Mais il est quand même capable de comprendre. Et donc on peut être nourri et relevé par sa compassion. C'est ce que dit Victor de Gaulle. Pour obtenir compassion, on trouve des grâces. Et se relever. Parfois, on est déprimé de ne pas y arriver. On est déprimé de cette pantée, de cette engueulée encore une fois avec quelqu'un qu'on ne voulait pas. On est déprimé pour toutes sortes de raisons. Et on peut trouver compassion en quelqu'un qui sait que ce n'est pas si facile. Parce que lui-même, il a essayé, il a vécu ça. Alors lui, il a réussi, pas nous. Nous, pas toujours, en tout cas. Mais il est capable de comprendre. Et ça, quand on ouvre notre cœur à ce cœur de Jésus qui est plein de compassion et de grâce pour nous. J'aime beaucoup ce texte des voyages du monde. Cette compassion, ce n'est pas un phénomène historique loin dans le passé, mais quelque chose qui est à notre portée. Nous pouvons nourrir cette compassion, nous nourrir de la grâce qui est en Jésus, dans notre réalité. Parce qu'il connaît notre réalité, lui qui s'est fait homme et qui a été soumis à des épreuves, aux tentations, pas tentations, sinon là, à des tentations tout point semblables à nôtres. C'est intéressant. On ne croit pas assez que Jésus a été soumis à des tentations comme nous. C'est un de nos problèmes. On ne croit pas assez que Jésus a été homme comme nous. On pense toujours qu'il est à moitié au ciel quand il se balade. et que c'est bien touché à seul. Mais ça nous prive. Ça nous prive d'une bonne partie de la communion avec lui, pour ici, et de son secours. Une dernière chose encore, que je vous propose d'en faire un groupe. La compassion de Dieu le fait intervenir dans la vie des gens. Mais on voit que son désir, au-delà d'une intervention plus ou moins ponctuelle, c'est de construire avec nous une relation qui dure. Dans l'Ancien Testament, ça s'appelle l'Alliance. D'accord ? Dieu sort le peuple de l'esclavage pour lui proposer une alliance. Et le peuple va dire deux ou trois fois oui à l'alliance avant que l'alliance soit signée. Parce que Dieu n'a pas envie d'imposer non plus son alliance. Le peuple va dire oui au chapitre 19 et il va dire oui au chapitre 24. Mais le projet de Dieu, c'est ça. Et c'est pareil dans le Nouveau Testament, où Jésus vient nous sortir, nous sauver, nous relever de nos situations liées au péché ou aux fragilités, etc., ou plutôt au mélange des deux, pour nous introduire à une relation avec lui, mais aussi une relation avec le Père Céleste, pour nous entraîner dans une dimension de fils du Père Céleste. Cette identité-là, l'Esprit veut la construire en nous. C'est l'Esprit qui met en nous, c'est l'Esprit qui... Je ne vais pas dire de bêtises, je vais le dire exactement, non. Mais une des tâches fondamentales de l'esprit, on ne le dit pas assez aussi, je pense, c'est dit dans Romains 8, une des tâches fondamentales de l'esprit, dans le cœur du croyant, nous avons reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions à Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit veut travailler en nous, inscrire en nous une identité d'enfant de Dieu. Et évidemment, cette relation d'identité entre père et fils, c'est évidemment dans la Écriture. Pas juste une intervention d'un moment. Donc Dieu veut construire une relation d'amour. C'est l'aboutissement de ça, de son désir, de sa compassion. Construire une relation. Pas juste aider un moment et puis c'est fini, quoi. Je trouve que c'est important parce que parfois on veut bien aider les gens, mais après on ne veut plus les voir. C'est bizarre. Il y a peut-être que moi qui pense ça, mais de construire une relation. Pour nous, c'est pas toujours possible à tout le monde, mais évidemment, lui il peut, mais. Voilà, la compassion va aussi vers ça. C'est pas lui vers ça. Ok, on va faire un travail en groupe. Pour faire ça, nous verra. Donc l'idée c'est, alors là c'est par la pompe, hein, on va compter. C'est cet après-midi qui est par église. Donc non, on peut être, non ça, ouais, on compte cet après-midi, on est en église. Je vous invite à faire un groupe avec 4 questions. Et comme nous sommes des frères et sœurs, on ne va pas seulement faire de la théologie, on va aussi faire du partage. Se raconter des choses. Parce que c'est ça aussi qui construit la foi. Donc la première question c'est, dans notre expérience de Dieu, comment avons-nous découvert son amour, sa compassion pour nous? Je répète. Dans notre expérience de Dieu, comment avons-nous découvert son amour, sa compassion pour nous? Deuxième question. Avons-nous eu ou avons-nous au présent, parfois, du mal à croire en l'amour et la compassion de Dieu pour moi? Est-ce que j'ai parfois du mal à croire en l'amour et la compassion de Dieu pour moi? Par exemple, quand il m'arrive une tuile à moi ou à des personnes que j'aime. Est-ce que j'ai parfois du mal à croire en l'amour et en la compassion de Dieu pour moi? Par exemple, quand il m'arrive une tuile à moi ou à des personnes que j'aime. Et comment je traverse de tels moments? Comment je vis de tels moments? Bon, alors sur nous, on va passer des choses un peu moins personnelles. Mais je trouve que c'est important de parler de ces choses entre nous, parce qu'on peut s'encourager à se faire du bien. Vous avez vécu des choses les uns les autres qui peuvent faire du bien aux autres. Et pas seulement des qui parlent de moi. La troisième question, la compassion, est-elle un thème important de notre vie d'Église? La compassion est-elle un thème important de notre vie d'Église? Est-ce qu'on en parle dans les prédications? Dans les yeux uniques? Est-ce qu'on est exhorté régulièrement à vivre la compassion? Je leur répète la question ou ça va? Ça va, je vais un truc. Dernière question. Est-ce que vous voyez vos expériences de compassion dans votre Église et dans vos Églises? Vous êtes témoin de moments de compassion ou d'actes de compassion dans l'Église ou dans ton Église? Ça va? Ok, on fait quatre autres. Tout le monde a des questions ou vous pouvez répéter?
Alors c'est parti, on fait les groupes.